Come on, boys and girls, c'est le temps de se lever.
Il est 6h, c'est le temps de se réveiller avec Ismaël Trépanier. Wake up!
De 6h à 9h, votre animateur, Ismaël Trépanier.
Bonjour, Madame Le Pen!
Comment
allez-vous? Est-ce que c'est la première fois que vous avez un entretien, une entrevue faite avec des Canadiens? Dites-moi
oui. Eh bien oui.
Dites-moi oui! Oh! Fantastique.
Voilà.
Ouais, voilà. Une première, on casse la glace. Comment allez-vous ce matin? J'espère, enfin...
Ça va très bien, merci. Il fait moins froid que chez vous, mais ça va très bien.
Ouais. Okay. Mais comment ça? Là, vous savez qu'il fait moins 18 ici, là? Vous avez une...
Ben oui, c'est pour ça.
Oh, bon, enfin, c'est gentil de compatir avec nous, parce que je vais vous avouer, franchement, moi, si je pouvais avoir, excusez-moi l'expression, le cul dans le sable, en ce moment, je... pour être un peu irrévérencieux, oui, maintenant, je le ferais. Alors, Madame Le Pen, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous à l'émission Wake Up, le show sur le www.rockick.com. Ismaël Trépanier, nous avons Laurent Lagneau qui est avec nous, et aussi on a Saint-Jean. Ce sont deux Français, ça tombe bien. Il y a seulement que moi qui est purement québécois ici. Alors, on peut débuter maintenant. Vous avez quoi, à peu près un petit 15 minutes avec nous, c'est possible?
Je suis à votre disposition.
Ah, fantastique. J'aime toujours les femmes disposées, d'ailleurs, Mme Le Pen. Bon, dans le fond, je ne sais pas, pour commencer, première des choses, qu'est-ce qui vous a amené à faire de la politique au niveau, surtout à suivre les traces de votre père?
Ben écoutez, je crois que la politique est un virus. On l'a ou on ne l'a pas, voilà. Donc, j'ai cherché à m'échapper, moi, de la politique dans mes jeunes années, puisque j'ai été avocat pendant près de 6 ans. Et puis, le virus est revenu à la charge, et c'est vrai que progressivement, je me suis investi, et puis par le hasard des choses, eh bien, je me suis retrouvé sur les plateaux de télévision un jour à défendre les idées qui sont les miennes et qui sont celles du Front National. Et la suite, vous la connaissez, c'est ce qu'on pouvait lire et voir depuis 2002. Quoi.
Exactement. Je peux aller tout de suite dans le vif du sujet. Le Front National, dans traverse une crise financière. Est-ce qu'elle est en voie de se régler, cette crise-là, au niveau du Front National, Mme Le Pen?
Oui, elle va se régler parce que je crois, vous savez, que le Front National, c'est un organisme vivant, hein, composé d'hommes et de femmes, et dans une vie, on peut avoir parfois des moments difficiles. C'est comme, hélas, beaucoup de familles françaises, notamment. Sauf que nous avons été particulièrement prévoyants, puisqu'on s'était constitué un patrimoine. En cas de coup dur, le coup dur est arrivé, nous réalisons notre patrimoine, et nous allons, dans les semaines ou les quelques mois qui viennent, régler totalement notre situation financière et repartir d'un bon pied, avec moins d'argent qu'avant pour fonctionner.
Oui, c'est
sûr. Vous savez, avant, on faisait avec rien, donc on fera avec moins.
Oui, voilà. je comprends très bien, mais c'est sûr que vous allez avoir peut-être plus de facilité que d'autres partis qui se retrouveraient, qui ont toujours eu les moyens financiers et que, dans le fond, du jour au lendemain, ils se retrouvent avec rien. Peut-être qu'eux ne seront pas en mesure de se retourner sur, excusez-moi l'expression québécoise, se retourner sur un dixaine, hein, se retourner rapidement sur soi-même et de voir, parfait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi le plan de match pour être capable de continuer à avancer et pas de reculer, bien sûr, pas de faire du surplace, Mme Le Pen. Et dans le fond, il y a une crise financière, mais il y en a eu une aussi à l'interne chez vous. Est-ce que, tranquillement, ça aussi, c'est sur le point de se régler? On parle de plusieurs piliers comme Carl Lang ou encore Jean-Claude Martinez qui viennent de s'auto-exclure.
Vous savez, un parti politique, encore une fois, il subit des mutations. Je crois qu'aujourd'hui, le Front National subit incontestablement, c'est évident, une mutation. D'abord, il va devoir, et c'est peut-être la première fois, c'est même la première fois dans son histoire, se choisir un nouveau présidentiable. Hein. Or, vous savez que les partis, compte tenu des institutions françaises, sont des écuries présidentielles. Donc, ça crée effectivement un certain nombre de bouleversements, de remises en cause, et puis la situation financière un peu difficile du Front National crée aussi des états d'âme. Eh bien, comme dit Jean-Marie Le Pen, parfois il faut une bonne tempête parce que la tempête, elle coupe les branches mortes. Voilà. Quand il y a des gens qui n'ont plus tellement la foi, qui n'ont plus tellement envie d'aller de l'avant ou qui n'y croient plus, eh bien, somme toute, mieux vaut qu'ils fassent leur chemin personnel et qu'ils laissent ceux qui ont la foi, ceux qui ont envie, ceux qui ont l'enthousiasme aller au combat parce que ce combat est très difficile. Hein. Nous restons un parti qui est contre l'intégralité du système.
Exact, mais dans le fond, visiblement, là, il conteste votre légitimité, Mme Le Pen. C'est un peu ça aussi, là.
Oui, mais ils contestent ma légitimité, mais d'où acquirent-ils la leur?
Oui, exactement.
Moi, j'ai acquis ma légitimité sur le terrain électoral, où j'ai rapporté au Front National le meilleur score de toute la France aux législatives, le meilleur score de toute la France aux municipales.
Exact.
Et je me suis présenté dans les instances internes de notre mouvement où je suis arrivé en deuxième position derrière Bruno Gollnisch. Donc je crois que j'ai une grande légitimité à être là où je suis. Eux n'ont pas voulu se présenter dans les instances internes, ils n'ont pas voulu faire le jeu, jouer le jeu démocratique, et on ne peut pas dire que leurs derniers résultats électoraux démontrent un véritable investissement important sur le terrain. Donc je crois que la légitimité, ça n'est pas quelque chose que l'on a à vie, c'est quelque chose que l'on doit en permanence prouver et prouver à nouveau, parce que c'est la raison pour laquelle les militants et les électeurs nous font confiance.
Laurent, je crois que tu as une question de ton côté. Je te laisse la parole, mon cher.
Oui, j'en aurai même plusieurs. Bonjour, Madame Le Pen.
Bonjour.
Quand on va sur le terrain, on se rend compte que les élus du Front National ne sont pas rejetés, comme souvent les médias voudraient nous le faire croire. Mais il y a un petit hic, c'est-à-dire que les gens ne franchissent pas forcément le pas de voter pour vous parce que vous êtes diabolisé.
Oui.
Cette diabolisation, bon, on la connaît, c'est souvent du fait des partis de gauche, mais aussi des partis centristes. Et donc la question, c'est qu'est-ce que vous comptez faire pour vous dédiaboliser, entre guillemets?
Écoutez, moi, c'est le constat que vous faisiez, je l'ai fait depuis 2002. Hein, depuis 2002, je me suis donné comme objectif, justement, de dédiaboliser le Front National. La dédiabolisation dans mon esprit n'étant pas un affadissement de nos idées ou de notre programme, mais la lutte qui me paraît légitime contre toutes les caricatures qui ont été faites du Front National. Fasciste, nazi, antisémite, et j'en passe, et des meilleurs. Bon, moi, ça, je trouve que c'est profondément injuste, qu'il s'agit là d'une caricature dans le but volontaire de nous mettre en dehors du système politique. Donc il faut lutter contre cela en se montrant tel qu'en nous-mêmes. Ça n'est pas simple, d'autant que nous avons subi, comme vous le savez, une concurrence directe sur le terrain de nos idées aux dernières élections présidentielles. Mais vous avez raison de rappeler que lorsque Nicolas Sarkozy, qui a fait croire aux électeurs français qu'il allait faire en gros ce que le Front National demandait de faire, eh bien lorsque ces électeurs s'apercevront qu'il n'a rien fait de tout cela, nous pensons pouvoir reprendre notre place dans le paysage politique français, et même au-delà, parce que moi, mon objectif, voyez-vous, ça n'est pas de témoigner d'une bonne idée, c'est de l'appliquer. Et pour l'appliquer, il faut arriver au pouvoir, il faut donc s'en donner les moyens.
Tout à l'heure, Madame Le Pen, quand je vous parlais de votre légitimité, quand elle est contestée dans le fond, là, dans ces conditions-là, est-ce que vous serez quand même candidate à la succession de votre possible candidature? C'est ça, lors du congrès de 2010, dans le fond?
Oui, mais vous savez, elle est contestée par quelques-uns à qui on tend beaucoup le micro.
C'est vrai,
mais
c'est vrai.
Elle n'est pas contestée par l'immense majorité du Front National, l'immense majorité des adhérents du Front National qui, encore une fois, ont voté au comité central pour moi à 75%. Donc c'est eux, si vous voulez, moi, que j'écoute, parce que ce sont eux qui sont la force vive de notre mouvement. Ce ne sont pas un certain nombre de personnalités qui sont certes élues, depuis d'ailleurs souvent une vingtaine d'années, mais qui, à mes yeux, ont arrêté le combat politique de terrain. Donc bien sûr, je serai candidate lorsque Jean-Marie Le Pen entendra ne plus être président du Front National. Je l'ai dit, j'ai été très claire à ce sujet. Et puis, ben, mon Dieu, le meilleur gagnera. C'est ça l'objectif.
Exactement.
C'est que cette campagne interne s'effectue de manière loyale, correcte, respectueuse, parce que moi, je n'oublie jamais, même quand j'ai des désaccords parfois avec un certain nombre de personnalités de mon parti, je n'oublie jamais que nous sommes tous des patriotes, et que comme nous sommes tous des patriotes, nous nous devons, les uns à l'égard des autres, de faire preuve de respect. Voilà.
Y a une chose, ben dans le fond, je vous poserai tout de suite cette question-là. Vous allez être candidate au présidentiel de 2012.
Bah écoutez, moi je pense que j'ai toujours dit partout qu'il m'apparaissait que pour des raisons d'efficacité, le futur président ou la future présidente du Front National devait également être le ou la candidate à la présidentielle. Encore une fois, la nature des institutions françaises le veut, l'efficacité le veut, et si on ne peut, si on doit regarder un petit peu en arrière, on s'aperçoit que c'est probablement un des problèmes majeurs qu'a eu Ségolène Royal lors de la dernière élection présidentielle.
Exact.
Et qu'en réalité, dans le meilleur des cas, elle s'est retrouvée en parallèle avec le parti dont elle était la candidate, et dans le pire des cas, en opposition. Donc on ne peut pas, à mon avis, se permettre de partir de manière divisée. Il faut partir de manière unie. Au fond, ça ne nous changera pas beaucoup, hein, puisque Jean-Marie Le Pen a toujours été le président du Front National et en même temps le candidat à la présidentielle.
Alors, le serez-vous ?
Ben, je le ferai si les adhérents du Front National décident de me confier la responsabilité du Front National, bien sûr.
Ah, alors, mais vous seriez intéressé à vous présenter, c'est sûr et certain, si vous avez un appui majeur, un fort appui à l'intérieur.
Oui, bien sûr, je serais intéressé. Je connais le sacrifice que ça représente, mais je pense que si les adhérents du Front National considèrent que je suis la mieux placée pour attirer à nous un électorat plus important hein, que par le passé, puisque l'objectif c'est de faire 50% plus une voix,
voilà. Hein,
sinon on n'a pas le pouvoir, bien sûr que je répondrai à cette demande.
Maintenant, Saint-Jean qui est avec nous en direct de Normandie. Saint-Jean, je te laisse poser ta question aussi à Marine Le Pen.
Oui, bonjour Madame Le Pen. Donc Saint-Jean, un petit Normand au gros bras. Je voulais revenir, sur la santé du parti Front National. Donc comme Ismaël l'a dit en début d'entrevue, on parle du départ de certains cadres, mais concernant les adhérents, je voudrais savoir comment se porte la base. Le nombre d'adhérents reste-t-il fixe ou a-t-il diminué ou augmenté par exemple depuis les élections présidentielles? Je voudrais savoir si aussi la division de certains cadres du parti met le bazar parmi les adhérents. Comme on a pu le voir, par exemple, au Parti Socialiste.
Ben pas du tout. C'est assez d'ailleurs étonnant, mais enfin c'est assez étonnant vu de l'extérieur, assez peu de l'intérieur. En réalité, le nombre d'adhérents reste stable, en tout cas depuis les dernières difficultés internes du Front National, ce qui prouve d'ailleurs que peut-être les cadres hein, qui sont partis n'étaient plus tellement en accord ou en adéquation avec leur base, ou en tout cas qu'ils n'avaient pas développé une énergie suffisante pour les convaincre de partir avec eux. Le nombre d'adhérents est un petit peu moindre que pendant la présidentielle, mais ça c'est toujours le cas. Enfin, je veux dire, on est un parti qui n'avons pas, si vous voulez, de beaucoup d'élus locaux. Bon, par conséquent, nos électeurs sont plus sensibles au vent. Voilà, il y a du vent, il y a une élection, ils adhèrent. Quand on subit un petit revers électoral, ça peut arriver que bon, ils refluent un peu et on les retrouve d'ailleurs, en règle générale, à l'élection suivante. Donc nous n'avons aucune raison de craindre, en ce qui concerne en tout cas le nombre de nos adhérents, nous n'avons pas de crainte particulière. Et pour aller beaucoup sur le terrain, je peux vous dire que dans toutes les réunions que nous organisons, il y a plutôt plus d'affluence, évidemment, qu'il n'y en avait après les législatives. Les gens ont l'air assez motivés, hein. On pourrait penser qu'ils sont un peu désespérés. Eh bien non, ils sont motivés, ils ont envie de partir au combat politique, d'autant que ils sont évidemment sensibilisés par la crise financière très grave qui va toucher la France, parce qu'elle ne l'a pas encore touchée, et qui, en quelque sorte, donne raison au Front National, puisque depuis 30 ans, nous prévoyons que, inéluctablement, nous allions en arriver là.
D'accord. Ouais, j'aurais une question pour les européennes. Actuellement, on voit une pléthore de listes à la droite de l'UMP qui vont se monter là pour d'ici le mois de juin.
Oui.
Et donc, est-ce que vous craignez que ça continue après les européennes, c'est-à-dire que le vote à la droite de l'UMP se partage entre le CNI, le MPF, le Front National et puis d'autres chapelles comme Dupont-Aignan là qui vient de se lancer aussi. Comment voyez-vous l'avenir à la droite de l'UMP pour les prochaines échéances?
Moi, très objectivement, pour regarder ça de très près, j'ai mon analyse dans ce domaine. Je pense qu'il s'agit là de l'expression d'une volonté présidentielle. Je pense que Nicolas Sarkozy veut la mort du Front National parce que, quoi qu'en pensent les observateurs, le Front National reste la force politique la plus constituée, la plus solide, la plus implantée et par conséquent la plus à même demain de faire à nouveau des scores qui chaîneraient le président de la République. Ouais. Donc, il, par son action, si vous voulez, il a dit d'ailleurs, le Front National est mort. Moyennant quoi, il a tort, mais il va tout faire pour que ce soit vrai. C'est à nous, évidemment, de résister à cela. Et je pense que c'est un peu sous son impulsion que l'on voit comme ça se multiplier des listes, entre guillemets, souverainistes, MPF, CNI, Dupont-Aignan, etc., pour tenter de grignoter, si vous voulez, la base électorale du Front National. Je crois qu'il se trompe, encore une fois, de tactique, parce qu'en réalité, ces listes risquent de grignoter surtout l'UMP, comme on l'a vu souvent par le passé. Donc nous résisterons bien sûr à cette énième tentative pour faire disparaître le Front National. Et moi je suis à peu près persuadé qu'aux européennes, le Front National va repartir à la hausse, alors qu'il est vrai, aux dernières élections législatives, nous avons eu un résultat décevant hein, du fait du hold-up électoral dont on a été victime.
Parlons-en, Madame Le Pen, de Nicolas Sarkozy. Vous en pensez quoi jusqu'à maintenant de son fameux parcours depuis qu'il a été élu président de la France?
Écoutez, moi j'ai envie de dire aux électeurs qui ont voté Nicolas Sarkozy, est-ce que vous avez voté pour ça? Est-ce que vous avez voté pour une aggravation de l'immigration? Est-ce que vous avez voté pour l'augmentation des impôts et des taxes, puisqu'il en a créé, je crois, un par mois depuis qu'il a été élu?
Faites attention, Mme Le Pen, là, parce que là, on va vous pointer du doigt, vous parlez encore d'immigration, on va vous traiter de raciste, là, je le sens, là, hein, quand on sait pourtant que le multiculturalisme, Mme Le Pen, a été dénoncé haut et fort partout à travers la planète, que ça ne fonctionne pas du tout. On s'entend là-dessus?
Ah non, mais on s'entend très bien. Nous luttons, encore une fois, ça fait 30 ans que nous luttons contre l'immigration. Or, cette immigration, contrairement à ce que pense une partie des Français, loin de s'arrêter, non seulement c'est aggravé, mais c'est accéléré.
Exact.
Puisque aujourd'hui, nous avons l'immigration subie et que nous avons aussi l'immigration choisie. Bon, elle commence à poser des problèmes de plus en plus graves, tant sur le plan financier, sur le plan budgétaire, que sur le plan de l'identité et même de la sécurité. Donc nous allons continuer à dénoncer l'escroquerie hein, qu'a constitué les discours de Nicolas Sarkozy pendant la présidentielle,
voilà.
Alors même que l'invasion dont la France est victime continue de plus belle. Mais il n'y a pas que cela. Ce qu'il y a surtout, c'est que Nicolas Sarkozy est un mondialiste. Il s'est présenté comme étant quelqu'un qui défendait la nation. Il a fait claquer le drapeau bleu-blanc-rouge pendant toute la campagne présidentielle. Or, à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, à chaque fois, c'est le choix du mondialisme qu'il fait, c'est-à-dire le choix de la suppression de tout ce qui peut protéger notre pays et notre peuple, que ce soit sur le plan fiscal, sur le plan sanitaire, sur le plan migratoire, sur le plan des libertés. Et c'est ça, je crois, qui est la grande différence entre Nicolas Sarkozy et nous. Il est un mondialiste, nous sommes des nationaux.
Mais à écouter souvent les discours de Nicolas Sarkozy, j'ai l'impression pratiquement qu'il serait prêt, je veux pas non plus jeter de l'huile sur le feu, mais j'ai toujours cette impression-là qu'il serait prêt à subventionner pratiquement les mosquées, Mme Le Pen.
C'est pas pratiquement. Oui, il était. Mais je vous rappelle que j'avais fait moi une action lorsqu'ils ont créé la Fondation des œuvres de l'islam de France. Et Nicolas Sarkozy avait expliqué qu'il voulait mettre en place une discrimination positive à destination de l'islam.
Okay.
Pour que l'islam et que les musulmans et les chrétiens soient sur le même pied d'égalité en France. Ce qui est une hérésie, puisque c'est nier totalement l'identité française, l'histoire française, la culture française au bénéfice d'une religion qui est sûrement respectable en tant que religion, mais qui n'est sur le territoire français que depuis 40 ans. Bon, donc c'est là-dessus, c'est contre cela également que nous nous battons, parce que nous tenons à protéger l'identité française, qui à mon avis aujourd'hui est extrêmement mise à mal. Je vous rappelle, si vous l'avez oublié, qu'un certain nombre de procès qui sont intervenus dernièrement ont tenu compte en réalité de la loi musulmane. Hein. La loi française s'est en quelque sorte adaptée à la loi musulmane. Ça a été le cas de l'affaire de l'annulation du mariage. Et ça a été le cas dernièrement lorsque la cour d'assises a renvoyé un procès parce que le présumé criminel musulman faisait le ramadan. Eh bien ça n'est absolument pas admissible. Et je crois qu'il n'y a que le Front National pour pouvoir s'élever contre cette dérive.
Oui, j'aurais une autre question, mais un peu plus sur le terrain économique. Que pense le Front National du libéralisme?
Le Front National, il est contre l'ultra-libéralisme, si vous voulez. Moi, je pense que l'économie de marché ne peut fonctionner que dans un pays qui a des frontières. Hein, voilà. Or, aujourd'hui, il faut bien admettre que le mondialisme, ça n'est rien d'autre que la dérive totalitaire du libéralisme. Voilà. Le libéralisme est devenu aujourd'hui totalitaire, parce que l'objectif, c'est de faire du monde une espèce d'immense supermarché. Hein. Et pour cela, eh bien, il faut couper tout ce qui relie les hommes, les peuples, hein, à leurs racines. Alors, l'identité est un obstacle au commerce, les nations sont un obstacle au commerce, les traditions sont un obstacle au commerce, et donc on s'aperçoit qu'au niveau mondial, on cherche à supprimer, si vous voulez, l'ensemble de ce qui peut, ce qui fait que les peuples et les nations sont différentes les unes des autres. On cherche l'uniformisation parce que l'objectif ultime, c'est l'uniformisation des modes de consommation. Eh bien, nous lutterons contre ça. Et j'ai souvent l'occasion de dire, quand on défend la nation française, lorsqu'on en défend sa souveraineté, lorsqu'on défend sa liberté, lorsqu'on défend son identité, nous défendons en réalité la liberté, la souveraineté et l'identité de toutes les nations du monde. Et en cela, nous sommes loin d'être les égoïstes qu'on nous décrit. Nous ne sommes pas égoïstes, au contraire. Au contraire, nous défendons la liberté, l'identité, la souveraineté de tous les peuples et de toutes les nations. Voilà. Or, c'est vrai que le mondialisme, lui, tend à les faire disparaître.
Je vous amène comme ça... excuse-moi, Laurent, continue, désolé.
Oui, ouais, finalement, le mondialisme, c'est le libéralisme qui a nié ses principes.
Mais je vous dis, c'est une dérive totalitaire. C'est voilà, une d'accord. dérive totalitaire du libéralisme. Donc ça n'est pas le libéralisme en soi qui est condamnable. Si dans le libéralisme, il y a la libre entreprise, l'entrepreneuriat, etc. Mais on voit bien là qu'il ne s'agit absolument plus de cela. Il ne s'agit absolument plus de cela. L'ultralibéralisme tel qu'il est appliqué aujourd'hui et tel qu'il règne sur le monde n'a plus rien à voir avec la conception libérale qu'on pouvait avoir il y a encore 30 ou 40 ans.
Saint-Jean, question de ton côté.
Oui, justement, ça touche le mondialisme, etc. Parce qu'on parle de multiculturalisme, etc. Et maintenant aussi, le sujet maintenant, c'est surtout le métissage. Je pense que Madame Le Pen, vous avez entendu parler de la petite polémique entourant Monsieur Éric Zemmour, journaliste. Mmh. Et qui est donc taxé de tous bords depuis quelques semaines, depuis quelques jours, de raciste colonialiste et apparemment potentiellement poursuivi par certains organismes bien nommés antiracistes. Je voudrais savoir justement ce que vous pensez de cette polémique. Est-ce que d'après vous, c'est plutôt un pavé dans la mare des bien-pensants qui mérite débat ou alors un simple coup d'épée dans l'eau, cette histoire qui entoure Éric Zemmour?
Non mais je pense que d'abord je tiens à apporter à Éric Zemmour que j'ai eu l'occasion de connaître toute ma sympathie et mon soutien total dans le combat qui est mené contre lui de manière, je trouve, absolument scandaleuse. Alors tant mieux d'ailleurs que ce débat existe, parce que si ce débat existe, ça veut donc dire qu'un certain nombre de nos compatriotes vont se rendre compte qu'on est vraiment dans un pays totalitaire et que les libertés, leurs libertés, se sont réduites progressivement comme peau de chagrin sans même peut-être qu'ils s'en rendent compte. La polémique qui lui est faite est totalement dérisoire. Enfin écoutez, moi j'ai été avocat pendant 6 ans. J'ai fait du droit de la presse pendant 6 ans. Eh bien, la diffamation raciale, c'est quoi ? Si ce n'est la diffamation prononcée à raison de la race. Alors dans ces cas-là, il faut supprimer l'ensemble des textes du code pénal portent sur ces sujets-là. Il faut supprimer plusieurs articles de la Constitution. Il faut supprimer toute une série de lois. Il faut supprimer effectivement du dictionnaire, comme le dit M. Zemmour, l'ensemble de ce qui fait référence à une race. On devient totalement... totalement fou avec ces affaires-là. Voilà, oui. Donc... oui, excusez-moi.
Oui, non, mais justement, ça m'amène à un petit sujet. C'est que, voyez-vous, j'ai discuté avec une personne qui est plutôt, on va dire, bien de gauche, on va dire, bien antiraciste, etc. Et quand j'en ai parlé avec elle de cette polémique, je lui ai dit, de toute façon, il n'y a pas de souci, les races n'existent pas. Et il m'a dit, tu te trompes, les races existent, sinon SOS Racisme n'aurait pas besoin d'exister. Et c'est là que j'ai vu toute la... J'ai vu exactement toute la contradiction de cet esprit-là, quoi, en fait.
Non, mais c'est dérisoire, mais c'est dangereux, si vous voulez, parce que à un moment donné, on finit par nier la spécificité de chaque homme, en réalité. C'est ça qui est dramatique, au-delà de ça. C'est qu'à un moment donné, et c'est l'objectif, si vous voulez, vous voyez bien, du métissage. Vous voyez bien que le métissage comme religion, c'est-à-dire quasiment comme une obligation, il y a un certain nombre de ministres, de Nicolas Sarkozy, qui disent qu'ils veulent une France métissée. Donc voilà des gens qui expriment le désir de mettre en place une politique du métissage. Mais enfin, écoutez, le métissage, s'il existe, est un choix personnel. Il ne peut en aucun cas être un choix politique. Ça veut dire qu'on va obliger les gens, donc, à se marier ou à avec des gens qui ne sont pas de leur quoi. Alors, on dit quoi maintenant? Si on n'a plus le droit d'utiliser le mot race.
Voyez, bon, voilà. Couleur. Apparemment, il faut utiliser le mot espèce.
Oui, bon, écoutez, c'est horrible. Enfin, voilà. Enfin, bon, je sais pas, moi, on a l'impression, alors là, pour le coup.
Ah bah, moi, écoutez, bon, enfin, voilà, donc
non, mais je veux dire, c'est dérisoire. Voilà. Je pense que c'est dérisoire, mais ça, c'est quand même très révélateur du niveau de terrorisme intellectuel qui pèse sur la France et dont, à mon avis, d'ailleurs, les Noirs sont en l'occurrence en partie parfois victimes, parce qu'on les embrigade un peu de force, si vous voulez, sous des bannières antiracistes. Or les SOS racisme, etc., ne représentent qu'eux-mêmes, hein. Ils ne sont absolument pas les représentants de telle ou telle communauté comme ils veulent bien le faire croire. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en France il n'existe pas de communauté, il existe un seul concept. C'est peut-être ce qui nous différencie d'ailleurs de la religion musulmane. Il n'existe qu'un seul concept, c'est celui de la citoyenneté.
Justement, comment le Front National peut faire en sorte, si disons en 2012 on décide de donner notre vote au Front National, Madame Le Pen, comment le Front National va faire ou enfin peut réussir à faire en sorte que demain matin, on se sente plus français, justement, en France? Parce qu'en ce moment, de ce que je peux faire, depuis exactement 2005, précisément, qu'on anime le show, l'émission Wake Up, hein, en direct du Canada, il faut le faire. Les Français viennent nous parler ici sur nos ondes en nous disant constamment, jour après jour, on n'est pas chez nous.
Ben non, et pour cause. Donc, le Front National, il va avoir énormément de travail à faire. Mais encore une fois, à la différence des autres, il a une vraie vision. Donc, l'ensemble des choix politiques qui vont être les siens vont tendre à la protection de l'identité et de la culture française, et accessoirement, d'ailleurs, de l'identité et de la culture européenne, parce que nous ne nions pas l'Europe. Nous refusons l'Europe qu'ils ont construite. Mais il faut surtout s'attaquer en priorité, peut-être, au problème de l'immigration. C'est-à-dire qu'il faut d'abord stopper l'immigration. Parce que là, on est en train, si vous voulez, monsieur Hortefeux, il vide la mer avec une petite cuillère. Il faut stopper l'immigration, faire un moratoire total sur l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui en France et telle qu'elle continue aujourd'hui en France. Deuxièmement, il faut stopper l'ensemble des pompes aspirantes de l'immigration. À savoir que si vous venez chercher un travail en France, eh bien, il faut que vous puissiez subvenir à vos besoins, parce que vous ne pourrez plus avoir accès, n'étant pas français, à toute une série d'aides qui seront réservées à nos compatriotes, l'aide au logement, les aides sociales diverses et variées. Il faut évidemment avoir une politique très ferme d'immigration de retour, hein. Une sorte de politique dissuasive de l'immigration, parce que moi je suis persuadé qu'à partir du moment où on aura coupé les pompes aspirantes, où il n'y aura plus d'intérêt, si vous voulez, à venir en France, eh bien d'abord il y a beaucoup de gens qui n'y viendront plus, et il y a beaucoup de gens qui en partiront de même, si vous voulez, sans même qu'on ait de politique de reconduite à la frontière à effectuer. S'il n'y a plus d'école, s'il n'y a plus de soins gratuits, s'il n'y a plus d'aide sociale, s'il n'y a plus d'accès prioritaire au logement aux étrangers comme il y en a aujourd'hui, ben, croyez-moi qu'il n'y aura plus beaucoup d'intérêt à venir ou à se maintenir sur le territoire français. Et puis, il y a des grandes règles de base qu'il faut modifier. Il faut supprimer le droit du sol, parce que ça fait partie des pompes aspirantes très importantes de l'immigration, à savoir que ça n'est pas parce que l'on est sur le territoire français que l'on a vocation de manière automatique à devenir français. La nationalité française s'hérite ou se mérite. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des naturalisations, mais elles doivent être justifiées par un investissement, par un comportement sans bavure, hein, à l'égard du pays qui vous a accueilli.
Laurent, c'est à toi.
Vous parliez tout à l'heure de culture et de terrorisme intellectuel. Il y a quelques jours, enfin quelques semaines même, il y a un maire de la région parisienne qui a voulu baptiser un collège du nom de Kléber Adams. Et c'était un écrivain de qu'on classe à droite, hein, et le MoDem s'y est opposé. Alors, je voudrais bien savoir ce que vous pensez de cette affaire-là.
Bah, écoutez, moi je suis bien placé pour vous parler de ce genre de choses, puisque j'ai passé toute ma scolarité au lycée Florent Schmitt, qui pendant 30 ans s'est appelé le lycée Florent Schmitt, et brutalement, la majorité socialo-communiste verte du Conseil régional d'Île-de-France a découvert qu'on avait accusé Florent Schmitt d'avoir eu des relations avec les nazis, et ils ont débaptisé le lycée Florent Schmitt.
Franchement. Bon,
alors que tout à fait évidemment, ces gens-là ont une vision tellement politisée et peut-être tellement, ils sont tellement ignorants qu'ils ne savent pas que lorsque l'on baptise un bâtiment, en général, on le baptise en respect pour l'œuvre de celui à qui on donne le nom, dont on donne le nom au bâtiment, et non pas pour la personnalité de celui-ci. Mais je vais vous dire une chose, moi j'avoue que lorsque l'on se balade dans les banlieues de la région parisienne, il y a un certain dans les villes communistes, il y a quand même un certain nombre de noms qui ne semblent faire trembler personne, et pourtant qui ont à leur actif, le moins qu'on puisse dire, des centaines, de milliers et même des millions de crimes sur les épaules. Bon, voilà, donc je pense qu'ils ont une vision, il n'y a rien à faire, ils ne sont pas comme nous, si vous voulez. Ce sont des gens qui sont absolument sectaires, qui ont une véritable... Dans leur grille de lecture, ils ont une tendance totalitaire. Voilà. Ils ont une tendance à réduire la liberté des gens et particulièrement la liberté de ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est pour ça qu'on les combat d'ailleurs, et c'est pour ça que l'histoire a pu voir qu'à chaque fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, à chaque fois ça a entraîné des drames humains et accessoirement des drames économiques.
Je veux revenir un peu sur Nicolas Sarkozy, Madame Le Pen, dans le fond, qui a piqué une partie de votre électorat, qui applique, dans le fond, vos idées en matière d'immigration et d'insécurité, parce que c'est ce que la majeure partie des Français qui nous écoutent en ce moment nous répètent, que les électeurs du FN ont voté, par exemple, certains électeurs qui auraient voté Front National ont voté Nicolas Sarkozy aux dernières, en pensant que, dans le fond, avoir un programme pour la France et se sont retrouvés avec excusez-moi l'expression, mais un fou dangereux sécuritaire et immigrationniste qu'on me donne comme information sur nos courriels.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bah, écoutez, il les a bien eus. Hein, c'est une chanson de Sardou comme ça qui dit « Je vous ai bien eus ». Ben voilà, c'est exactement ça. il les a bien eus.
Oui.
Moi, je regrette parce que, si vous voulez, de surcroît, non seulement la politique de Nicolas Sarkozy est dangereuse, non seulement elle va dans le mauvais sens, mais de surcroît, elle est d'autant plus dangereuse qu'il y met un activisme forcené. Voilà. Donc, il fait passer, il dégrade beaucoup plus, si vous voulez, la situation politique de la France. En un an, il l'a beaucoup plus dégradée que peut-être ne l'avait fait avant lui Chirac, qui n'était pas bon, qui n'allait pas dans le bon sens, mais il y allait tellement lentement qu'à limite, il y avait encore... on pouvait encore faire marche arrière. Aujourd'hui, il va falloir réagir très vite, parce que à la vitesse à laquelle se dégrade l'identité française, à la vitesse à laquelle se multiplient les zones de non-droit, à la vitesse à laquelle on détruit les fondements même de la société française, l'armée, la police, le système hospitalier, l'école, eh bien, je crains que le travail soit considérable pour ceux qui auront le chantier de reconstruire tout cela. Alors les Français doivent maintenant prendre la décision, à chaque fois qu'ils en auront la possibilité, c'est-à-dire à chaque séquence électorale, d'exprimer tout de suite, et pas seulement à la prochaine présidentielle, d'exprimer tout de suite le rejet qu'ils ont de cette politique de destruction méthodique de la société française et de la nation française.
Est-ce que c'est ce qu'on peut dire, justement, enfin c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on entend souvent, que Nicolas Sarkozy, en un laps de temps record, a réussi, c'est ça, à autodétruire pratiquement tout ce qui avait été semé, on peut dire un peu intéressant, par certains partis qui étaient au pouvoir avant lui?
Bien sûr. Et, si vous voulez, Nicolas Sarkozy, il est l'ami des puissants. Et on s'aperçoit que chaque fois qu'il prend une décision politique, c'est au bénéfice d'un puissant, et particulièrement de grands groupes. Hein. Il supprime la publicité sur le service public pour faire bénéficier ses amis de TF1, etc. Il a la politique du renvoi d'ascenseur. Hein. Il renvoie l'ascenseur à ceux qui l'ont fait élire. On a vu qu'il a accordé, par l'intermédiaire d'une procédure arbitrale, un demi-milliard de dommages et intérêts à son ami M. Tapie. À chaque fois que l'on tourne, si vous voulez, les yeux quelque part, on s'aperçoit que lorsqu'il prend une décision, ça bénéficie à un de ses amis qui a des intérêts commerciaux puissants. Bon, eh bien, cela, c'est évidemment exactement à l'encontre hein, de ce qui est notre politique à nous. Nous devons de protéger, encore une fois, des structures qui ont fait de la France ce qu'elle est. Ça ne veut pas dire que ces structures-là ne sont pas améliorables. Hein. Les services publics, il y a sûrement des réformes à faire, incontestablement, pour les rendre plus performants, plus efficaces, mais de là à les faire disparaître, eh bien, on verra dans quelques années que la logique de la rentabilité prendra le pas sur la logique du service public et que par conséquent, ça laissera très probablement sur le côté de la route toute une série de nos compatriotes qui sont soit les plus faibles, soit les plus éloignés. Donc cela, il faut encore une fois lutter contre cette dérive qui m'apparaît grave et qui, encore une fois, est méthodique. Hein. Méthodique, à chaque fois qu'il prend une décision, ça va dans le sens des puissants et contre l'intérêt de ce que j'appelle le petit peuple hein, oui. auquel nous appartenons et dont au Front National nous sommes les avocats.
Ouais, j'aurais une autre question là. Je reviens sur la diabolisation parce que c'est ce quand même, enfin c'est ce qui plombe le Front National depuis des années avec la complicité des médias qui vont pas chercher plus loin dans l'histoire de France, enfin notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des résistants qui étaient classés à l'extrême droite. Donc je pense au commandant d'Étienne d'Orves qui a été fusillé en 41. Je pense au colonel de Larocque, ce qui était le chef des croix de feu, qui est mort en déportation. Bien pourquoi le Front National ne met pas plus en avant ces figures-là qui ont marqué l'histoire et qui finalement n'ont rien à se reprocher.
Oui, c'est vrai.
Vous savez, il y a beaucoup de gens au Front National qui sont des résistants et des très grands résistants d'ailleurs et souvent très jeunes, ils sont entrés dans la résistance très jeunes. On les a toujours mis en avant. Le problème c'est que si ça n'est pas relayé par les médias, c'est très difficile, si vous voulez, de faire connaître à l'ensemble de la population que nous avons dans nos rangs des très grands résistants, dont d'ailleurs Roger Olyndre, qui est le premier vice-président du Front National et qui est entré dans la résistance à 15 ans. Bon, nous avons des gens qui ont eu des parcours couverts de gloire et couverts d'honneur. Mais lorsque vous voyez que le président de la République, un des premiers actes du président de la République a été de faire lire la lettre de Guy Môquet, hein, communiste, qui n'était pas résistant d'ailleurs, qui n'a pas été fusillé pour avoir résisté. Bon, eh bien, on voit bien que là, il y a une volonté de dénaturer totalement l'histoire de France. Et croyez-moi, moi qui ai eu l'occasion de faire une émission il y a quelques semaines, face à 70 lycéens du lycée Balzac, eh bien, on s'aperçoit que à ces enfants-là, on n'a pas transmis, on n'a pas voulu transmettre, et on a même fait en sorte de ne surtout pas transmettre la véritable histoire de France, les aspects les plus glorieux, pour ne s'attacher qu'à leur transmettre une image totalement dégradée de leur propre pays. Voilà, on a laissé penser, on a inculqué à nos enfants que la France était un pays de colonisateurs, de profiteurs, ouais. De collaborateurs. Eh bien, ceci est un véritable crime pour l'avenir. Voilà, parce que l'amour que l'on porte à son pays est évidemment un moteur extraordinaire de son développement et de son rayonnement.
Vous parliez tout à l'heure des médias qui ne relaient pas assez les informations sur le Front National. Est-ce que, à l'image d'Obama, parce qu'on a dit qu'Obama était le candidat d'Internet, est-ce que le Front National compte mettre en place une stratégie spécifique sur Internet?
Bah écoutez, nous on a été le premier parti politique, je crois, à avoir un site internet. Vous voyez, donc on était un peu à la pointe. Il est évident qu'Internet est un outil de communication qui est fondamental, qui est incontournable, et peut-être pour au moins une raison, hein, c'est que il est quasiment gratuit.
Bon. Et Madame Le Pen, si je peux me permettre, je tiens aussi à vous donner le crédit en frais de parti politique du côté de la France. Si je ne me trompe pas, vous êtes aussi les premiers à faire des mini-reportages télé sur votre site disponible pour les internautes, n'est-ce pas?
Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons mis un peu ça en sommeil parce que nous sommes en train de travailler justement à un nouveau site internet qui sortira au mois de janvier.
D'accord.
Avec une nouvelle émission hebdomadaire.
Oh.
où nous allons essayer un peu une nouvelle fois de bouleverser les codes. Donc nous avons été toujours un peu au top, mais soyez conscients que c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, que là où notre site internet comporte 5 personnes, celui de l'UMP, notamment pendant la présidentielle, en comportait 150. Bon, alors nous faisons un peu avec les moyens du bord, mais oui, nous avons fait beaucoup, encore une fois, par le passé, avec peu. Je crois que rien ne remplace l'envie, la foi que l'on a dans le combat qu'on mène. Donc on tentera de le faire au maximum, au mieux de nos possibilités. Et si vous avez des gens qui ont des idées pour nous, eh bien nous sommes preneurs aussi. Et ils peuvent venir nous les poster sur le site frontnational.com.
Ah ben, ça nous fera plaisir de pouvoir justement le mentionner à nos auditeurs français.
Oui, mais vous savez, il y a beaucoup de bonnes idées. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées lumineuses auxquelles parfois on ne pense pas. Nous, nous sommes demandeurs. Nous prenons toutes les suggestions et nous les étudierons avec beaucoup de sérieux.
Juste une chose, c'est parce qu'on voudrait, du Canada, beaucoup de Québécois s'imaginent, et d'ailleurs c'est une question qui est soulevée par un Québécois ici, on voit le Front National par les gauchistes que nous avons ici, nous en avons malheureusement des gauchistes ici.
C'est très répandu comme espèce.
C'est un peu comme la peste bubonique, pour être méchant. On a beaucoup de difficultés à s'en débarrasser. Alors, on voit le Front National comme, par exemple, mais de manière assez radicale, comme le KKK. C'est très grave les propos qui sont tenus. Non, c'est vrai, Saint-Jean, Laurent aussi. Les journalistes québécois ici démonise énormément le Front National comme des gens ultra-racistes. Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, le chef de l'Action démocratique, Mario Dumont, a été traité de Jean-Marie Le Pen. Alors, c'est une image grossière que l'on envoie aux Québécois. Alors, comment vous, Marine Le Pen, pourriez peut-être changer un peu la donne
Bah, écoutez, je l'espère, mais il est vrai que je me suis rendu compte que le Front National avait servi en réalité dans tous les systèmes politiques du monde, avait servi en quelque sorte de bouc émissaire.
Exact.
Et c'était pour empêcher, je crois qu'on s'est servi du Front National comme bouc émissaire, on lui a fait porter, si vous voulez, la tunique du démon pour empêcher les nationalistes et les nationaux de se réunir dans l'ensemble de ces pays. À chaque fois qu'un parti national qui voulait défendre son identité, défendre son peuple sans xénophobie, mais uniquement, je veux dire, pour que celui-ci continue à vivre, à prospérer et à vivre en sécurité, à chaque fois on lui a dit « Ah, vous êtes le Front National ». Et cette simple accusation, eh bien, devait évidemment servir à limiter les effets de la montée de ces partis nationaux, que ce soit en Europe ou que ce soit dans le reste du monde. Eh bien, il ne faut pas rentrer dans ce piège. Voilà. Le Front National est un parti qui n'est ni raciste, ni antisémite. C'est un parti national qui défend le peuple français dans ce qu'il a de spécifique, sa culture, son histoire, son haine de l'autre, encore une fois, et avec tout le respect que justifient les nations qui l'entourent et même les nations du monde. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de nationaux et de nationalistes qui sont en train de faire des scores excellents dans toute l'Europe. L'esprit national reprend du poil de la bête, et il faut qu'il reprenne du poil de la bête, mais il faut aussi que les dirigeants de ces partis soient courageux et ne rentrent pas dans le piège qui consiste à dire « Ah oui, c'est vrai, le Front National, c'est affreux, mais nous, on est bien. » Parce qu'à ce jeu-là, ils perdront. Voilà. La vérité, on ne négocie pas avec la vérité. La vérité, c'est que le Front National est un parti honorable, constitué de gens honorables, qui ont donné, qui donnent tout ce qu'ils ont pour leur pays, pour la protection aussi de leurs voisins, des plus faibles d'entre eux. Et en cela, eh ben, ils ne méritent en aucune manière ni le mépris ni l'injure, bien au contraire.
Madame Le Pen, je ne sais pas pour toi, Laurent, je crois que tu as encore une dernière question, Laurent.
Oui, j'ai une question. En Europe, en Suisse notamment, il y a un parti qui est proche, enfin qui a les mêmes idées que vous pratiquement, et qui a réussi. Alors, est-ce que c'est un parti dont, est-ce que c'est un parti qui vous inspire ou
c'est plutôt nous qui l'avons inspiré en l'occurrence.
Oui, enfin bon.
On est les grands frères, si vous voulez, nous sommes. Nous, oui, oui, c'est vrai, mais nous sommes le grand frère de beaucoup de partis européens, mais il faut bien dire que dans beaucoup de pays, la situation est assez différente de celle de la France, parce que la France se présente comme un pays très démocratique, alors qu'en réalité, il est probablement un des pays les moins démocratiques d'Europe, avec la Belgique, hein, qui également a une espèce de tentation totalitaire à l'égard de toute expression d'idées qui ne va pas dans le sens du gouvernement. Mais en Suisse, la situation politique est assez différente, et si vous voulez, dès le départ, le système politique suisse fait que le parti que vous évoquez a été assez facilement dans les assemblées, dans les instances. Il faut savoir que le Front National, ça n'a pas été le cas, et que nous avons qu'un accès extrêmement limité en termes de représentation. Nous n'avons pas de députés à l'Assemblée nationale, alors que l'ensemble des partis européens, dès qu'ils font 5, 8, 10%, sont représentés dans l'ensemble des assemblées. C'est évidemment beaucoup plus facile dans ces conditions-là. Donc croyez bien que nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir, nous nous félicitons et nous sommes heureux de voir le développement, la montée, je veux dire, de ces partis nationaux, mais dans beaucoup de cas, ils ont un peu la vie en tout cas un peu plus facile que nous ne l'avons nous, et nous avons un peu déblayer le terrain en quelque sorte. Eh bien, si dans l'histoire on dira, s'il suffit qu'on dise, ben voilà, le Front National a servi à ça, ce sera déjà bien. Mais ça n'est pas suffisant pour nous. C'est pour ça que nous allons continuer le combat politique, que nous n'allons pas nous soumettre à la dictature intellectuelle, morale, hein, qui existe en France. Et moi, je suis encore une fois persuadé, et je l'espère, nous aurons l'occasion d'en reparler peut-être dans quelques mois, que progressivement, le Front National va sortir de sa période, de sa séquence électorale difficile, pour reprendre la place qui est la sienne, et pour un jour arriver au pouvoir, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est d'arriver au pouvoir pour appliquer nos idées. Et dans toutes les assemblées où nous sommes allés, où nous avons défendu nos idées, et bien dans toutes les assemblées, même nos adversaires politiques ont admis que nous étions effectivement bien différents de l'image caricaturale qu'ils se faisaient de nous. Alors la visibilité me paraît être un des axes, hein, à mener, parce que quand on nous voit, et bien on se dit, ben non, pour finir, c'est peut-être pas, ils n'ont pas le couteau entre les dents et les cornes qui poussent, vous voyez.
Merci. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Madame Le Pen. C'est fort apprécié pour l'entretien que nous avons pu avoir avec vous. Et je tiens à vous dire que j'ai un énorme respect pour vous et aussi pour votre père, pour le Front National, qui me semble un peu plus différent de la mentalité qu'on essaie de projeter de la plupart des autres partis du côté de la France.
C'est sûr. Ben, écoutez, c'est très gentil. En tout cas, je vous remercie de votre invitation.
Merci à vous.
Et je fais un salut fraternel à tous les Canadiens.
Ah, merci beaucoup, Madame Le Pen. Voilà. C'est apprécié, et on espère parler un jour au papa, pourquoi pas?
Ah, et pourquoi pas? Pourquoi pas?
On ne sait jamais, selon ses disponibilités. Merci beaucoup, Madame Le Pen. D'accord. Très belle journée pour vous.
Au revoir.
Au revoir. Alors, c'était Marine Le Pen. Messieurs, Marine Le Pen qui, justement, nous a livré un wig. Nous a livré quelques trucs intéressants, fort intéressants. Je me trompe pas, Laurent. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous en avez appris un peu plus, messieurs?
Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et je trouve que dans la droite française, enfin, je parle de la droite de l'UMP, hein, la droite de l'UMP,
oui.
Je crois que c'est la personnalité qui va compter dans les années qui viennent.
Ouais. Je crois que oui. J'ai vraiment l'impression que oui, concernant Marine Le Pen. Je sais pas pourquoi, elle a une énergie. Première des choses, Ségolène Royal ne lui arrive mais elle lui arrive en dessous de la semelle, là, première des choses. À titre de pour une femme, je trouve, c'est ça que je veux dire, moi, dans le fond, pour une femme, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup elle a des couilles d'acier, beaucoup plus que Nicolas Sarkozy, beaucoup plus d'aplomb que beaucoup d'hommes que j'ai pu entendre en politique, là, franchement, là.
Ah bah,
elle sait bien, elle sait bien se battre.
Maintenant à nos portes, le temps est venu de se réveiller avec Wake Up. Wake Up! Retrouvez Ismaël Trépanier et une foule de nouveaux collaborateurs. Only on Rocking.com. Wake Up!